suit.
Et voici les titres du journal.
Le Tour de France a fait vibrer les Chablaisiens hier à Aigle-Oie-Montet. Valérie Blom s'est promenée dans la foule sur la place du centre-ville montaisan. Et sur le plan sportif, le spectacle a aussi été au rendez-vous lors de cette 9e étape du Tour de France. Le parcours articulé à 95% sur sol suisse a offert une lutte à tous les niveaux. Enfin, la galerie de service et de sécurité du tunnel du Grand Saint-Bernard a été officiellement inaugurée samedi en présence des autorités italiennes et suisses. Elle a mis plus de 10 ans à voir le jour.
Et au niveau de la météo, vous l'avez vu, hein, le ciel reste bleu, il y a du soleil et on annonce des canicules. Bien plus d'infos à la fin du journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Dany, bonjour à tous. Le Tour de France a été célébré en grande pompe dans la région. Plongeons-nous tout d'abord dans l'ambiance. À Montet, le centre-ville et la place de l'Hôtel de Ville accueillaient hier les amateurs de la Grande Boucle et Valérie Blom s'y trouvait.
D'abord, le passage de la fameuse caravane publicitaire à Montet fait vibrer la foule qui tentait d'obtenir l'un des lots lancés par les sponsors du Tour. L'ambiance est ensuite devenue plus sérieuse dans l'attente des premiers coureurs en la personne de Bob Jungels qui a traversé Montet seul pour entamer la montée vers sa victoire.
Ils arrivent.
Il y en a un qui arrive.
Il y en a un, c'est Jungels.
Dans la foule, les personnalités de la région sont présentes, comme le président de Montet, Stéphane Coppet, satisfait de l'organisation de cette journée.
Je pense tout simplement que c'est une journée de fête et très certainement qu'il n'y a pas que des cyclistes au bord de la route. Dieu merci, il y aurait un peu moins de monde. C'est vraiment une fête du sport, une fête en général, une fête d'une région, du Chablais, marquée notamment par l'engagement évidemment de la commune d'Aigle, mais de l'ensemble de la région, que ce soit Trottoran, Morgin ou Châtel, juste de l'autre côté de la frontière. Et évidemment, Montet, à nouveau, on a voulu le conseil municipal, en collaboration avec Montet Tourisme, en faire une fête. Et je crois que c'est vraiment une fête.
À Aigle, Julien Traxel a tendu son micro à la conseillère d'État, Christelle Luizier-Brodard, heureuse elle aussi.
C'est très émouvant. C'est une fierté d'accueillir ce Tour de France. Et puis, c'est indéniable, c'est un succès populaire. Donc, à toutes celles et ceux qui peut-être en doutaient, on voit aujourd'hui que le vélo fédère. On voyait ces familles arriver ce matin à Aigle, notamment à la gare, et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir sur sol vaudois une manifestation qui réunit tous les âges et tous les milieux.
Et dans la foule montésane, des amateurs de deux roues entre autres, ou une personnalité reconnue par les Valaisans.
Oui, c'est avant tout la passion du vélo, mais bon, aussi un petit peu de l'apéro, la bonne humeur.
Oh ben on est là depuis une heure.
Et puis vous n'avez pas trop chaud avec ce soleil qui
tape? Il y a un bon courant d'air, ça va. Un bon chapeau, c'est bon.
Vous êtes des grands fans du Tour de France ou bien c'est parce qu'il passe ici?
Moi, j'aime bien. Ah ouais. Je le suis, en tout cas à la télévision, chaque année.
Que du bonheur. Alors bien sûr qu'il fait chaud, hein. Pour le moment, on n'a encore pas trop la foule au stand raclette. Mais on rencontre plein de copains, il y a même des amis de Host qui sont venus en vélo. Pour le Tour de France, pas forcément pour la raclette, mais ils se sont arrêtés à la raclette et on a partagé un verre, on a partagé un bon moment avec eux.
Vous aurez reconnu la voix d'Eddie Baillefard, spécialiste de la raclette.
Au total, ce sont plus de 200 000 spectateurs qui se sont rassemblés au bord des routes durant ces deux jours de course, avec au moins 65 000 personnes à Lausanne et 15 000 à Aigle, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs le long des routes, au bord du lac, en plaine et en montagne.
Le Tour de France a donc fait un passage remarqué sur les routes de la région.
Que ce soit dans les airs, via des images à couper le souffle ou sur les routes grâce aux coureurs, le spectacle a été au rendez-vous hier lors de la 9e étape. Et le parcours de 193 km articulé entre Aigle et Châtel, qui marquait l'entrée du peloton dans les Alpes, a tenu ses promesses. Bob Jungels en a notamment profité pour décrocher une victoire de choix. Le Luxembourgeois a parcouru les 60 derniers kilomètres en solitaire. Sur le bord de la route, 100 000 personnes sont venues assister au passage de la Grande Boucle. Parmi elles, le nouveau conseiller d'État vaudois, Frédéric Borloo. Régional de l'étape, l'élu aiglon se montrait soulagé que le public suisse ait répondu présent.
On a toujours de la crainte avant chaque événement. Mais je crois qu'on verra le bilan final. Mais les gens sont là. Tout à l'heure, on était les premiers autour de ces tables. Aujourd'hui, c'est plein de monde. Ils attendent la caravane. Puis, en fait, la joie est sur les visages. Et puis quand on sort d'une période de Covid, quand on a des incertitudes sur la guerre en Ukraine, enfin, ce genre d'événement quand même fait du bien. parce que on a besoin de se retrouver, on a besoin de passer des moments de convivialité, des moments tout simplement de chaleur humaine. Et avec le sport, la chaleur humaine, bref, c'est un cocktail extraordinaire.
Également présent lors de cette journée de gala sur les routes vaudoises, fribourgeoises et valaisannes, l'ancien coureur Dani Lovis a particulièrement savouré.
Pour moi, c'est un plaisir de voir la course passer, de revoir tous mes amis de ces 15 dernières années. Et puis, je crois que c'est une journée magnifique. On a un scénario de course parfait avec une grosse échappée. Et c'est vraiment une superbe journée. En tout cas, de ce qu'on a vu ici à Aigle, du départ et du public qui était présent au bord des routes, c'est une journée qui est réussie. Maintenant, il faudra faire le bilan ces prochains jours pour les organisateurs. Mais en tout cas, avoir le monde au bord des routes, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Aujourd'hui, place à la première journée de repos pour le peloton du Tour de France. Un peloton qui sera de retour aux affaires dès demain pour la 10e étape entre Morzine et Megève. Un tableau en ligne recense désormais les attaques de prédateurs dans le canton de Vaud. Il est tenu par la Direction Générale de l'Environnement pour diffuser des informations transparentes et faciles d'accès, a indiqué ce matin l'État de Vaud. Selon ce décompte, qui démarre au 1er janvier dernier, 16 moutons ont été tués par le loup. Le renard est le second prédateur à figurer dans le tableau. Il s'en est pris uniquement à des cadavres de veaux mort-nés à 5 reprises depuis le début de l'année. Seuls les événements ayant fait l'objet d'un constat de terrain par un surveillant de la faune sont documentés, a précisé l'État de Vaud. Le tableau sera mis à jour en fonction des prochaines attaques qui seront recensées sur le territoire cantonal.
Emprunter le tunnel du Grand Saint-Bernard peut désormais se faire en toute sécurité.
Une galerie d'évacuation qui servira également aux déplacements et aux services techniques a été inaugurée samedi en présence des autorités italiennes et suisses. L'ouvrage a nécessité 10 ans de travaux. Olivier Français, président de la société Tunnel du Grand Saint-Bernard.
C'est l'aboutissement d'un processus. D'abord, c'est la réflexion, c'est la décision d'engager de l'argent, quand même, près de 80 millions de francs, entre d'autres sociétés. Pour mettre en œuvre tout cela, il y a eu des problèmes, puisqu'il y a même une entreprise qui a arrêté le chantier. Voilà, après une reprise, une remise en état, modification aussi administrative, et puis à la finalité de signer tous les papiers qui soient conformes entre la Suisse et l'Italie. C'est un travail relativement fastidieux. Il n'y a pas seulement de faire un trou, il y a aussi de mettre du béton et de gérer toute cette problématique administrative. Voilà, c'est fini. Maintenant, on passe au futur et on se doit de continuer d'entretenir ce tunnel pour la sécurité de nos usagers et les gens qui exploitent le tunnel, avec, comme vous avez peut-être compris, un échange un peu rude avec Rome pour s'assurer que la concession soit prolongée jusqu'en 2070.
Franz Ruppen, conseiller d'État chef du département de la mobilité, travaille lui aussi au prolongement de la concession.
Il y a le grand défi de proroguer la convention. Aujourd'hui, la convention, c'est pour le tunnel, c'est jusqu'à 2034. Et ça, c'est après-demain, vu toutes les procédures. Alors nous, on veut aller en avant et changer cette date jusqu'à 2070 pour vraiment assurer cet axe entre le nord et le sud de l'Europe, qui est très important pour l'économie, mais surtout pour le tourisme. Et cet axe qui est accessible toute l'année, le tunnel, c'est vraiment important pour développer le tourisme, soit côté italien, soit côté suisse, un tourisme de 4 saisons.
Cette galerie de sécurité est déjà en fonction depuis 2 ans, mais la pandémie avait reporté son inauguration. Un sujet de Valérie Blom. Un vététiste de 67 ans est mort hier en fin d'après-midi après avoir fait une chute de 170 mètres en bas du Grand Bis de Lens. La victime qui faisait partie d'un groupe de 3 randonneurs à vélo est un Zurichois domicilié dans le canton de Saint-Gall. Arrivé sur place avec un hélicoptère d'Air Glacier, les secours n'ont pu que constater le décès du vététiste. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Sortir de l'élevage industriel, c'est avec ce slogan que le comité de l'initiative sur l'élevage industriel a lancé aujourd'hui sa campagne pour le oui. Portée par une large alliance, l'initiative sera soumise au vote populaire le 25 septembre. Les auteurs du texte exigent un environnement respectueux pour les animaux de rente agricole, ceux dont la garde a pour objectif la vente de produits. Cela implique plus d'espace, de litière et de possibilités d'occupation. Tous les animaux doivent également avoir un accès à un pâturage selon les initiants.
La Fédération Suisse des Pêcheurs veut créer un centre national des poissons dans le canton de Berne.
Lors de son assemblée des délégués ce week-end, elle a lancé une vaste campagne de dons afin de financer la finalisation de ce projet. Fraîchement nommée au bureau directeur de cette fédération de la pêche, la conseillère aux États jurassiennes Elisabeth Baume explique le bien fondé d'un tel centre national.
c'est plus simple d'être l'ami des abeilles que l'ami des poissons, parce qu'en fait, c'est un monde un peu caché. En fait, c'est peut-être moins joli que si on va au papillorama. Mais par contre, au niveau de la biodiversité, c'est véritablement extrêmement important et fondamental que nos rivières continuent et que nos lacs continuent à pouvoir connaître une richesse au niveau de la faune. Et puis, ce centre, il aurait une dimension pédagogique très importante. Il serait extrêmement bien positionné, proche de la capitale, mais aurait véritablement une volonté didactique et une volonté de mettre en valeur non seulement les poissons dans toute leur diversité, mais aussi toutes les activités qui tournent autour du poisson, soit bien sûr la pêche, mais aussi la gastronomie. En fait, ils ont des ambitions qui sont très vertueuses et importantes, et surtout aussi d'expliquer le rôle des poissons dans le cadre du réchauffement climatique.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejat-Toulami. La commune de Mauss, près de la ville de Berne, a déjà approuvé la modification de zone nécessaire et la nouvelle fondation Centre Suisse des Poissons a pu réserver une parcelle de 5 500 m².
La plateforme Uber s'est retrouvée plongée dans l'embarras hier à cause d'une vaste enquête de journalistes du Guardian.
L'entreprise est accusée d'avoir enfreint la loi et utilisé des méthodes brutales pour s'imposer malgré les réticences des politiques et de compagnies de taxis. Selon le Guardian, Uber a mobilisé plusieurs de ses chauffeurs pour les envoyer au milieu de manifestations dans différentes villes du monde, pour ensuite les inciter à se plaindre à la police quand ils étaient victimes d'agressions, afin d'utiliser la couverture médiatique pour obtenir des concessions des autorités. Les organisateurs des sit-ins lancés il y a 10 jours à Khartoum ont annoncé ce matin avoir démantelé 2 de leurs 4 campements dans la capitale soudanaise. Ils souhaitaient forcer l'armée à rendre le pouvoir aux civils en occupant les rues depuis le 1er juillet dernier. Il y a une semaine, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur d'un putsch en octobre 2021, qui a débarqué les civils et interrompu la transition vers la démocratie, avait annoncé vouloir laisser place à un gouvernement de civils. Mais cela n'avait pas convaincu la rue, qui a vu une tactique du dirigeant pour imposer des civils Fallo et acquis à l'armée et maintenir aux côtés du gouvernement un conseil suprême des forces armées, qui pourrait garder la haute main sur la politique et l'économie.
La coalition au pouvoir au Japon a confronté sa majorité au Sénat lors des élections d'hier.
Élection marquée par l'assassinat 2 jours plus tôt de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Un corbillard transportant son corps est arrivé aujourd'hui au temple bouddhiste Zojoji à Tokyo. Une veillée funèbre est prévue ce soir en présence notamment de figures du monde politique et économique japonais. Les obsèques devraient avoir lieu au même endroit demain en présence uniquement des proches de Shinzo Abe, avant un hommage public à une date ultérieure. Et on passe au sport. En tennis, Roger Federer n'apparaît plus dans le classement ATP. Absent des terrains depuis une année en raison d'une opération au genou, le Balois a été retiré d'office de la hiérarchie mondiale. Il y figurait depuis le 22 septembre 1997. À tout juste 16 ans, le Suisse avait alors émergé à la 803e place. De son côté, Novak Djokovic perd 4 rangs, malgré son 7e titre décroché hier à Wimbledon. Mais comme aucun point n'était distribué en raison de l'absence des joueurs russes et biélorusses, le Serbe a reculé de la 3e à la 7e position. Daniil Medvedev, absent sur le gazon londonien, reste en tête.
En football, Wayne Rooney est de retour dans le championnat nord-américain de MLS.
3 ans après avoir joué à Washington, l'ancien attaquant anglais revient en tant qu'entraîneur. Selon des médias concordants, le recordman de buts en Premier League s'est engagé avec le DC United. Il arrive en provenance de son pays où il dirigeait Derby County, fraîchement relégué en 3e division à cause de difficultés financières.
Merci Thierry pour toutes les informations.
Pas de souci.
Et puis désolé.
Aucun souci.
C'est des choses qui arrivent. On va aller prendre un petit peu de repos et puis on se retrouve
plus tard.
Mais oui. Merci Thierry, bon après-midi.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.